Bonjour General Electric.
Bonjour.
Ça va ?
Ben ça va très bien, un peu fatigué, mais ça roule.
Ça tourne ?
Ça tourne beaucoup, ouais. Enfin, ça va tourner beaucoup. On a commencé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, mais c'est très intensif. On a fait 5 concerts d'affilée, puis un jour off. Là, on réattaque pour 5, on a 2 jours off, après on réattaque pour 6. Donc ouais, ça n'arrête pas.
Comment ça se passe alors de présenter To Be A Stranger sur scène et de revenir sur scène avec General Electric?
Ça se passe super, c'est un vrai plaisir, encore plus que je le pensais en fait. Je m'étais un petit peu éloigné de ça volontairement à la fin de la tournée de Parker Street parce que j'étais bien fatigué et j'avais besoin de vraiment prendre un break par rapport au projet, ce que j'ai fait. Et puis finalement, donc l'idée de refaire un disque est revenue il y a à peu près deux ans quoi. Et pendant que je faisais le disque, je pensais pas du tout à la scène, si tu veux. Quand je travaille vraiment sur de l'enregistrement, c'est de l'enregistrement. Et puis à la fin du processus d'enregistrement, j'ai commencé à envisager, ah oui, c'est vrai, il va falloir remonter sur scène, etc., repartir dans le tourbus et tout. Ce qui est un vrai plaisir et en même temps quelque chose d'un peu dur pour moi parce que je suis aussi un mari très heureux et papa très heureux. Et donc, ça m'arrache un peu le cœur à chaque fois de partir. Mais je dois dire que là, c'est vraiment super. Le public est extrêmement réceptif et puis c'est vraiment très très gratifiant de voir des gens qui ont soif de ça quoi. Mais je prends pas ça à la légère du tout, tu vois. Ça me paraît toujours assez dingue le fait que des gens sortent de l'argent de leur poche pour acheter des tickets pour venir voir nous voir interpréter des morceaux que j'ai fait tout seul dans ma cave, tu vois. Voilà, c'est l'idée, c'est de donner un maximum d'énergie et un vrai show aux gens et puis nous le rendre bien, donc c'est super.
Du respect quoi.
Ouais, voilà, ouais.
C'est quoi qu'il y a avec General Electric, ce qu'il n'y a pas dans les autres projets que vous pouvez faire? Vous avez fait des trucs avec Blackalicious. Et c'est quoi qu'il y a là que vous ne trouvez pas ailleurs et qui du coup finit par vous manquer?
Je ne sais pas si on peut dire ça en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup aussi collaborer avec d'autres gens. En fait les deux se nourrissent, il y a une espèce d'effet ping-pong un peu. J'aime beaucoup collaborer avec des gens et savoir écouter leurs idées et puis se faire surprendre quoi, se laisser surprendre parce qu'il peut ressortir justement parce que je suis pas le seul à faire tout. Mais après, au bout d'un moment, après la collaboration, ouais, je suis content de revenir à mon petit jardin secret à moi et puis faire mes conneries à moi tout seul dans mon coin. Et quand j'ai fini mes conneries à moi tout seul dans mon coin, je suis ravi de repartir dans une collaboration. Donc c'est pas vraiment, je peux pas dire qu'il y a quelque chose d'angéeux qui me satisfait plus. En tout cas d'un point de vue discographique. Après, d'un point de vue scénique, j'ai la chance d'être accompagné par 4 mecs vraiment exceptionnels depuis 2009 maintenant. Et donc il y a une vraie cohésion de groupe qui s'est faite sur scène. Migration feathers.
On parlait de collaboration, il y en a eu beaucoup dans votre parcours. C'est quoi les prochaines qui vous feraient envie? Vous avez des petites idées?
Ouais, bah je viens d'en faire une en fait. C'est une co-réalisation, c'est une chanteuse brésilienne qui s'appelle Seu. C'est une pop actuelle brésilienne, mais assez empreinte de tropicalisme. Je sais pas si tu connais un petit peu ça, enfin la musique de Caetano Veloso, etc. Et moi, je suis très très fan de toute cette musique, et donc j'étais ravi qu'elle me demande de co-réaliser ça. Et donc voilà, c'est la dernière collaboration en date. J'en ai pas de futur de prévu parce que j'ai plutôt refusé les collaborations là, justement parce que j'ai envie de pouvoir goûter et profiter de ce qui se passe maintenant avec General Electric et cette nouvelle sortie et cette nouvelle tournée. Et puis j'ai aussi d'autres idées pour un nouveau disque en fait de GE déjà, donc j'ai envie de pouvoir enchaîner rapidement. Voilà.
Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume enchanté, une petite ligne de base bien ronde. Se promenant dans les bois, elle rencontra une grosse méchante boucle. Et la boucle qui n'était pas en appétit. décida d'accompagner la basse dans sa promenade. Un peu plus loin, nos deux amis croisèrent le chemin d'un clavinet. Il était enjoué et extrêmement funky.
Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de votre clavinette ?
Alors le clavinet en général, c'est un clavier qui est sorti dans les années 60. Celui que j'ai, que j'utilise moi, est un clavinet C de 1968. Et à la base, c'était construit pour être comme un espèce de clavecin électrique que tu pouvais mettre dans ton salon pour jouer du Bach ou quoi, tu vois. Et puis c'est tombé dans les mains de... Alors, il faut expliquer un petit peu comment c'est construit. À l'intérieur, il y a des cordes, justement, un peu comme dans un clavecin, sauf que ce sont des cordes plus proches des cordes de guitare électrique. Quand tu appuies sur la touche, ça tape la corde, ça crée une vibration. Puis la vibration est reprise par un micro, un pick-up comme une guitare électrique, quoi. Et donc ensuite, il faut brancher ton clavinette sur un ampli. C'est comme ça que tu as du son. Et il y a donc un potentiel rythmique assez énorme parce que tu tapes une corde, tu vois. Donc dépendant de la dynamique que tu donnes à la touche, ça va faire bing bing ou bang bang. C'est un peu comme du slapping sur une corde de basse. Et donc quand des gens comme Stevie Wonder ou Herbie Hancock ou Bernie Worrell, etc., ont posé leurs mains là-dessus, ils ont compris le potentiel funky du truc, et c'est devenu vraiment le clavier funk par excellence dans les années 70. Voilà, donc c'était un peu long comme réponse, désolé, mais donc moi je suis tombé amoureux de ça parce que j'ai toujours aimé le jeu rythmique, en fait. Même petit, dès que je me suis mis au piano, j'ai toujours été un petit peu attiré par le côté percussif du clavier en général, et comme le clavinet se prête vraiment à ça, voilà, c'est devenu un peu... Alors celui-là, c'est Marcel Bourdon qui me l'a vendu. Marcel Bourdon, qui est un spécialiste des claviers vintage sur Paris, qui est un grand copain, quelqu'un de plus âgé, hein, il a 80 maintenant, et qui est quelqu'un de charmant et un grand spécialiste. Et il avait un clavinet C qui traînait dans sa boutique, dont il n'avait plus besoin. Donc voilà, c'était un de mes premiers instruments vintage, d'ailleurs au début des années 90.
Ça groove Berlin ou bien ?
Ça groove d'une certaine manière. Ça groove pas comme à San Francisco, c'est différent. C'est pas. En fait, le truc, c'est que tout ce qui est techno minimal, etc., c'est pas vraiment ma musique. En fait, c'est pas un déménagement musical que j'ai fait en partant à Berlin. C'était plus la vibe générale de la ville qui est super. L'espace, la nature, les parcs, le côté aussi pas cher. C'est une ville abordable. Ce qui change beaucoup quand t'as habité à San Francisco pendant 12 ans, ce qui était notre cas. Et c'est un esprit, tu te sens pas jugé, les gens font leur truc chacun fait ce qu'il veut à sa manière, à son rythme, et c'est ce que permet une ville où il y a pas une économie qui est très forte. Enfin, ça change, hein, mais le résultat des courses, c'est que les gens vivent pas pour l'argent, quoi. Ils sont pas après la thune de la même manière que beaucoup de grandes villes cosmopolites dans le monde occidental de nos jours, et surtout les villes comme New York ou San Francisco. Et c'est ça qui nous a attirés. Pour revenir à ta question, est-ce que ça groove ? Ouais, ça groove, mais voilà, c'est un groove un petit peu plus rigide que San Francisco.
Peut-être plus reposant aussi.
Alors, si tu parles du groove de vie, oui, ça c'est sûr. Du groove musical, non, c'est pas reposant, non. It's not the way the wheel was spun, the way your destiny was sung. It's not your fate. It's what you took. It's what you took. It's not the chair that made you fall, that knocked your head against the wall and watched you crawl. It's what you took. It's what you took. You used to need a marquee high. The only real way you could fly was with your name up in lights. Up in lights. And when your name slid from the bill, you looked for someone to kill, and you found you. It's what you took. It's what you took.
Bon, sans faire de raccourci avec le titre de l'album To Be a Stranger, on va peut-être dire que l'actu a rattrapé le titre de l'album. Au-delà de ça, vous avez quand même pas mal bougé entre San Francisco, Paris, maintenant Berlin. Vous avez sérieusement une vie un peu nomade quand même. Et du coup, des fois, je me pose la question, entre être super libre et être un peu misfit, ça se passe comment ?
Ça se passe Ça se passe très bien. Enfin, ça se passe très bien à partir du moment où tu acceptes le fait que tu n'as plus de racines. Ce qui est mon cas. En fait, je me suis jamais senti complètement français. Je suis biculturel, moi, de naissance. Mon père est britannique, ma mère est française. Donc, même si avant tout, je suis français, j'ai toujours eu un petit peu cette différence, quoi. Et ça s'est amplifié avec les déménagements, bien sûr. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a déménagé, qu'on est parti. Je dis 11, je parle de ma femme et moi. Mais... aux États-Unis, voilà, c'est la culture anglo-saxonne, même si c'est pas l'Angleterre, où j'ai vécu aussi en tant qu'ado. C'est quand même la culture anglo-saxonne. Je me suis pas vraiment senti étranger, en fait. Assez rapidement, comme c'est en plus un pays d'immigration, t'as la pression d'appartenir assez vite. Même si j'ai toujours été un peu observateur là-bas, j'étais quand même, t'es intégré très rapidement. À Berlin, c'est différent. C'est une culture que je connaissais pas du tout, la culture allemande. C'est une langue aussi que je connaissais pas bien. J'avais fait ça un peu au lycée, mais comme un touriste, quoi. Et donc là, il faut vraiment se plonger. Et donc la sensation de plus avoir de racines et d'avoir perdu ce confort-là est plus forte pour moi maintenant qu'elle ne l'était quand j'étais aux États-Unis. C'est ça qui a inspiré le titre de l'album, d'ailleurs. Listening to raindrops twinkling against my window, I wonder where to go. Liquid jukebox, the tune is a broken solo.
En parlant de ça, qu'est-ce qu'il y a dans vos oreilles en ce moment ?
Il y a beaucoup de vieux trucs. J'écoute beaucoup de vieux trucs, mais j'écoute aussi des trucs récents et surtout d'ailleurs quand je fais un disque, parce que je veux être sûr de pas, je veux être sûr d'être content de faire un disque en 2016 ou en 2015 et de pas faire le vieux ronchon qui avec ses Beatles, ses Bowie, ses Stevie Wonder. Ouais, et donc voilà, et donc c'est important de rester proche de ses amours initiaux aussi, mais aussi de se sentir heureux, de vivre dans son temps, quoi. C'est un truc important pour moi. Donc ouais, je fais pas mal de recherches, en fait, au début de l'enregistrement d'un nouveau disque, pour être excité avec le monde autour de moi, musical, actuel. Et donc, les trucs que j'ai trouvés, là, que j'ai trouvé super, bah, Chance the Rapper, par exemple, je trouve que c'est un super rappeur. Kendrick Lamar, génie total. C'est un vrai chef-d'œuvre, je trouve, To Pimp a Butterfly.
Vous avez écouté le dernier ?
J'ai pas encore écouté, non. C'est bien ?
What did the age say? A piece of mind, that's what the age Asian said I needed divine intervention was his religion, and I was surprised. Him believing in Buddha, me believing in God. Asked him, what are you doing? He said, taking my time. Meditation is a must, it don't hurt if you try. See, you're thinking too much, plus you too full of yourself. Worried about your career, you have a think of your health.
Ah ouais, super, ouais, ouais, faut que j'écoute ça, ouais. Et sinon, j'aime beaucoup Saint-Vincent. Quoi d'autre? The Internet, je trouve ça assez chouette. Unknown Mortal Orchestra, je sais pas si tu vois ce que c'est, ça, super. Il y a plein de super trucs, hein, de toute façon. Après, c'est pas nécessairement les trucs que tu vas entendre sur les grosses radios commerciales, mais...
Sur radio,
elle est
mort,
oui. Oui, oui, bah mais c'est ça, c'est dans les bonnes radios, c'est-à-dire les radios indépendantes de nos jours, c'est ça que ça veut dire. Parce que je pense qu'il y a une époque où c'était pas le cas, en fait. Tu pouvais entendre des choses nouvelles et des choses intéressantes sur des gros réseaux, mais c'est fini, ça. Maintenant, les gros réseaux passent du confort. Ils passent des choses que les gens connaissent déjà, en fait. Et il n'est plus question de surprendre les gens. Et la surprise, elle va avoir lieu chez les radios indépendantes.
Il y avait quand même beaucoup d'amour tout au long de cet album. Ça commence avec un misunderstanding, alors donc le malentendu, et puis ça se termine avec une valse. Et entre temps, on passe par tout un tas d'états justement. Alors, quid de l'amour ?
Je suis amoureux, donc voilà, il en est question souvent, quoi, dans ce que je raconte. Mais il y a différents états, quoi. Et puis il y a pas que les miens, et donc je parle aussi de d'autres états, soit amoureux, soit pas amoureux, d'ailleurs, mais. Ouais, Magnet, c'est un morceau intéressant pour ça, ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'il est, il parle de ça, c'est un petit peu plus abstrait sur les deux premiers couplets. Donc, c'est les énergies qu'on peut ressentir entre les gens. Et puis, même simplement solo, pourquoi si t'as une porte à gauche et une porte à droite, t'es attiré plus par la porte à droite et pas la porte à gauche? C'est assez particulier, je trouve, ces sensations-là. Et puis, le dernier couplet, oui, c'est là, ça parle vraiment d'amour. C'est deux aimants qui s'attirent. Ouais, effectivement, bah, l'amour, mais je pense qu'il y a un peu que ça, quoi, finalement. Enfin, c'est ça qui donne du sens à tout. Il y a plein d'expériences qu'on peut vivre tout seul, qui sont très chouettes, mais qui sont exponentiellement décuplées si on les vit avec quelqu'un d'autre qu'on aime.